J'aimerais vous partager une réflexion sur l'impermanence. L'impermanence, c'est un des enseignements de base que le Bouddha a développé. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre comme une vérité en soi, mais comme un concept qui nous aide à libérer l'esprit des entraves et tout particulièrement de ce pouvoir trop grand que nous donnons au concept du moi, qui fait que nous prenons les choses tellement personnellement. Et c'est une grande souffrance, parce que au lieu que le cœur puisse être ouvert aux autres et puisse être dans la compassion, dans la gratitude, il est envahi par quelque chose de petit qui ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment. Je vous l'ai dit là hier, le Bouddha disait que l'impermanence, celui qui connaît l'impermanence, connaît le Dharma, connaît la vérité, est libre. Nous sommes toujours en porte-à-faux avec l'impermanence. Et nous pouvons bien le voir dans une retraite. Quand l'expérience est bonne, combien nous nous attachons? Combien nous voulons la reproduire? Comment nous avons l'impression de faire juste, d'être dans la cible? Et après, ça change. Et nous avons l'impression de faire tout faux, de pas pour arriver, d'être... Et dans nos vies, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement, cette manière de ne pas être en accord avec le réel. C'est Amadou Ampateba qui est un grigou, un gris-gris, non comment on dit ?
Un griot,
africain, qui dit « Chaque belle journée est inévitablement suivie d'une nuit profonde. » Donc l'impermanence, ça n'est pas une position philosophique, mais c'est un encouragement à observer les choses telles qu'elles sont et à peu concevoir la vie avec sagesse plutôt qu'en étant... aveuglé par le samsara, en cherchant ce à quoi nous aspirons vraiment dans ce monde. Ce n'est pas dans ce monde que nous pouvons le trouver. Ce monde nous aide à le trouver. Lorsque nous développons l'attention pure, automatiquement, cette réalité de l'impermanence devient une évidence, ça devient concret. Et l'accueil se fait de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus neutre. Et alors, lorsque nous avons ce travail de connaissance directe, des choses telles qu'elles sont, il y a un effet sur le corps et l'esprit qui fait que nous ne sommes pas sans cesse choqués quand les choses changent ou totalement extatiques lorsqu'elles changent en bien. Parce que si nous sommes extatiques quand elle change en bien, il n'y a pas de miracle, nous allons être découragés lorsqu'elle change en mal. Hier soir, j'étais dans mon lit, puis mon corps était tout bien, il n'était pas mal, il était... Puis je me disais, mais tiens, il y a 3 semaines, tu étais dans ton lit d'hôpital, ton corps était misérable, une petite loque. Anicca, c'est l'impermanence. Et qu'est-ce qui me tenait, ou qu'est-ce qui me tient maintenant? C'est cet acte de connaissance. Lorsque la pleine conscience fait juste acte de connaissance, « Eh ouais, juste maintenant, mon corps, il est misérable. » Ou bien, « Eh ouais, juste maintenant, mon corps, il est... waouh, à l'aise, il y a quelque chose de bienfaisant. » L'acte de connaissance, il ne change pas. Il est exactement le même. C'est une ouverture de conscience aux choses telles qu'elles sont. Et c'est ça que nous entraînons lorsque nous méditons. C'est cette capacité de recevoir la vie, non pas avec cet espoir fou qu'elle va être comme je la souhaite pour que je n'ai pas à souffrir, mais avec cette force intérieure qui fait que la souffrance est ok, elle fait partie. Il n'y a pas une erreur quelque part. C'est sûr que quelquefois l'expérience spirituelle où nous habitons le corps, où c'est bienfaisant, elle n'est pas possible. Si le corps a vraiment mal, et dans une retraite, le corps a mal. Mais l'acte de connaissance, il est possible. Et c'était chouette quand j'essayais de voir, ok, c'est vrai, quand mon corps était misérable, je ne pouvais pas habiter spirituellement le corps dans cette qualité de présence. Mais si je me liais à l'observateur, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était d'être le témoin. Et si nous sommes le témoin quand tout va bien, juste maintenant tout va bien, on peut dire qu'on a des bonnes conditions quand même. Il n'y a personne qui est en train de mourir, même si de temps en temps on a l'impression. Alors, on peut être le témoin. Ah ouais, juste maintenant, c'est franchement bon. C'est en rendant l'acte connaissant. En anglais, il y a ce terme qui est plus juste qu'en français parce que ça se passe maintenant, the knowing. L'acte, le fait de connaître. Ou le fait d'être en train de... C'est bon en anglais, mais on ne l'a pas vraiment en français. C'est lorsque ça devient prioritaire que nous devenons libres des conditions, que nous ne donnons pas trop d'importance aux choses qui changent. L'impermanence engendre toutes les déformations des constructions mentales. C'est ça qui met en roue le samsara. Quand je dis le samsara, c'est l'expérience mentale dans l'instant. Lorsque les choses changent en bien, l'expérience mentale se met en route dans un sens positif. Et lorsque les choses changent en mal, l'expérience mentale se met en route obsessionnellement ou négativement. Et nous pouvons voir, que ce soit en retraite, dans nos vies, dans le monde, que ce soit dans des changements tout petits ou dans des grands changements, combien c'est réel, combien l'expérience peut être de l'eau et devenir du vin et vice-versa. Et pour le moi, c'est énorme. L'impermanence, c'est quelque chose d'énorme. Nous pouvons tout perdre. Et aujourd'hui, lorsque nous pensons le monde avec les problèmes majeurs d'écologie, de surpopulation, sans parler du Covid, qui est une réalité importante pour les pays riches, mais rien que pour eux, même si nous projetons que c'est l'horreur ailleurs. Pour sûr, ceux qui n'ont pas un repas par jour ne vont pas être obsédés par la maladie. Ils ont d'autres chats à fouetter. Le défi est énorme. Hein? Le changement aujourd'hui, il est énorme. Il a probablement toujours été énorme. Il y a cette forme d'attachement au moi groupe, au nous groupe, qui fait qu'on a toujours l'impression que c'est à l'époque que nous vivons que les choses sont les plus extraordinaires. Avec l'impermanence, dans une retraite, lorsque nous commençons à la respecter, nous nous rendons compte que rien n'est jamais acquis. Et au lieu de venir nous asseoir avec cette espèce de certitude que selon ce que je fais, comment je fais, tout ira bien, nous venons nous asseoir plutôt juste avec une question. Je viens là, comment ça va être ? Ou comment c'est ? Comment c'est pour vous, juste maintenant ? Et cette énergie qui dit « rien n'est jamais acquis », elle peut paraître inquiétante, mais en fait, elle est profondément bienfaisante. Parce que nous ne pourrions pas vivre avec la permanence. Même quelque chose de merveilleux, au bout d'un moment, on s'en lasse. Vous avez remarqué ? Je me souviens, dans une retraite, j'ai deux exemples. Le premier, j'étais assise devant, c'était beau, j'étais tellement bien. Je jouissais totalement. Puis tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me disait « Ouais, bon, ben, mais quand c'est qu'on mange ?» Et puis une autre fois, c'était plus ces états comme ça, complètement immobiles. Il n'y a rien, c'est dense, c'est unifié, le cœur est tellement posé, bien. Puis ça a duré longtemps. Puis à un moment donné, j'entends toujours une voix tout d'un coup qui dit, une espèce de voix du bon sens, qui dit « Ouais, bon, puis quoi ?» Et c'est vrai. Vous seriez avec l'âme sœur sur la plus belle plage de l'océan, avec des températures de rêve, tout bon à manger, ça va un moment. Nous sommes faits pour l'impermanence. Et si nous nous mettons en harmonie avec elle, nous sommes sauvés. Mais c'est sûr que pour le moi, la pensée que nous pouvons tout perdre, ça crée une sorte de tremblement. Je ne veux pas perdre la santé, je ne veux pas perdre ma maison, je ne veux pas perdre ma voiture, ma famille, ma stabilité psychologique, mon bon karma. Et paradoxalement, le fait de ne pas vouloir perdre nous met en prison. C'est ça qui crée toutes les tensions du besoin d'existence ou de non-existence. Donc nous pouvons explorer, reconnaître, sentir le tremblement qui est justifié d'une certaine manière. Sentir aussi combien nous aimerions avoir des garanties, des sécurités, des assurances, autant au niveau de l'avoir qu'au niveau intérieur, qu'au niveau de l'être. Si nous pouvions répondre totalement à l'idéal de qui j'aimerais être ou de qui l'autre pourrait être. Ce serait juste la fin de la vie. Donc le changement dans une retraite, nous pouvons voir comment nous le lions au bien et au mal. Lorsqu'il y a un obstacle, que ce soit la somnolence, l'agitation, ou le désir, ou l'aversion, le doute. On n'a pas tellement envie de le laisser être. Ça crée cette impression que c'est faux, qu'il faudrait faire autre chose, que je n'aime pas. Et lorsqu'il y a une bonne concentration, du calme, de l'équanimité, de la joie, de l'intérêt, que la pleine conscience est ouverte et fonctionnelle, ça crée un sentiment de bien, je suis dans le bien. Et j'aime. Et bien sûr, nous allons développer ce que nous trouvons bien et que nous aimons, mais nous n'allons pas être dupes. Le but n'est pas d'être dans le bien. Nous méditons, c'est inutile de vouloir bien méditer. Nous, ce que nous voulons, c'est voir. C'est vraiment voir ce qui est là. Et quelquefois, nous pouvons le faire parce que les conditions sont là, réunies. Mais nous avons plein de différents moyens habiles pour être là sans forcément faire face directement à ce qui est douloureux. Ça n'est pas la peine d'aller explorer l'impermanence dans ce qu'elle a de plus cruel si elle nous submerge. Nous pouvons prendre refuge, nous pouvons nous donner la confiance, nous donner la compassion, le courage, le contentement. Et peu à peu, cette première vérité dont le Bouddha a parlé, dukkha, qui est complètement liée à l'impermanence, il y a parfois souffrance, c'est pas parce que je médite que je vais pouvoir arrêter l'expérience douloureuse. C'est quelque chose qui est intégré, qui est vraiment compris, qui n'est plus un problème. Ça devient simplement un réel parfois dans l'instant. Et nous avons des outils pour intégrer ce réel. C'est Ezra Baida qui dit « La libération, c'est d'être at home in the muddy water. » Je suis à l'aise, je me sens chez moi, même dans l'eau boueuse. Et c'est quelque chose qui ne peut être réalisé que dans l'instant. Quand tout à coup, l'expérience devient opaque, redoutable, que le moi perd ses repères. Ah, comment me sentir quand même à la maison? Comment faire pour être quand même à l'aise? C'est ça la vraie question. Autrement, nous restons toujours dans cette quête d'un bon karma qui passe son temps à nous échapper. C'est Ajahn Chah qui dit « Si tu sais que toute chose est impermanente, tes pensées vont perdre peu à peu leur importance. Tu n'auras plus besoin de trop penser. Quand une pensée émergera, tout ce que tu auras à dire c'est « Ah, tiens, en voilà une autre ». Et ça n'est pas seulement les pensées, c'est toute cette énergie qui quelquefois devient lourde et noire. On pourrait dire que l'aveuglement dit « j'y suis » ou « je n'y suis pas » et la sagesse dit « observe, regarde ». Lorsqu'il y a des bonnes conditions, c'est facile de se sentir en paix et c'est important de faire le plein. Non pas de juste jouir sans conscience, mais de savoir maintenant, c'est un moment où je suis bien, je peux me l'offrir consciemment, l'offrir aux autres. Et lorsque nous avons des bonnes conditions et que nous sentons qu'il y a ce qu'on appelle tanha, cet accrochement, aux bonnes conditions, oh, je veux garder, c'est à moi. Voir qu'il y a ce rejet inconscient de l'impermanence, qu'en fait il y a de l'aveuglement. Et de nouveau, ça n'est pas du tout une tare, c'est l'expérience dans l'instant et elle ne demande qu'à être mise en lumière. Lorsque j'apprends à mettre en lumière l'aveuglement, en fait, je suis sauvée. Mais tant que je suis dans ces zones de fautif, de bon élève, ben c'est ça l'objet de conscience. Ah oh, tiens, là, il y a le sens du devoir. Ouh, là, je me sens terriblement fautive. Et c'est complètement OK. Je vais là, si je le sens bon, je suis libre. lis un petit bout d'un texte du Majjhima Nikaya qui s'appelle Le vrai repos. Où l'esprit peut-il demeurer et s'établir? Il peut demeurer dans le non-repos et là s'établir. Qu'est-ce que ce non-repos? C'est un état où l'esprit ne s'installe dans aucun objet quel qu'il soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer dans le non-repos veut dire que l'esprit ne saisit pas le bien ou le mal, l'être ou le non-être, l'intérieur ou l'extérieur ou un espace entre les deux, l'existence ou la non-existence, la concentration ou l'agitation. Ce repos sur le non-repos, sur le rien, est l'état dans lequel l'esprit demeure. On dit de ceux qui l'ont atteint qu'ils ont un esprit en repos ou qu'ils demeurent dans leur nature de Bouddha. Savoir accueillir le non-repos, c'est ce qui fait que l'esprit est en repos. Mais si nous cherchons toujours un état de repos, ben maintenant nous sommes dans l'agitation. Parce que ce que nous avons n'est pas assez. C'est pour ça que nous développons l'attention pure au corps, les ressentis corporels, qui ne sont pas que les sensations, qui sont aussi les couleurs, les formes, les sons. Bien sûr, lorsque nous mangeons le goût ou l'odorat, nous ne faisons pas suffisamment l'exercice lié à l'odorat. On devrait le faire. Je vous encourage à le faire au déjeuner, au dîner, de vraiment sentir, hein, sentir un morceau de pain, sentir un fruit ou un repas que Pascal a préparé. Et savoir que juste là, nous sommes dans l'attention pure. C'est-à-dire qu'il y a uniquement la conscience et les sens. Il n'y a pas ce passage d'un moi pensé ou d'une référence à moi. Et on peut sentir lorsque ça glisse. Parce que ça glisse dans cette emprise conceptuelle. Et bien sûr, l'attention pure ne se limite pas au corps, mais elle s'applique aussi à ce qui est agréable et désagréable au cœur. Commencez maintenant, questionner et ne pas être compliqué. Juste maintenant, ah, c'est génial. Alors pourquoi? Ok, il y a sûrement une raison, mais et bien sûr nous l'élaborons, mais nous n'avons pas besoin de la mettre en priorité. Ce qui est prioritaire, c'est l'aspect bénéfique ou non bénéfique, agréable ou désagréable, confus ou clair, agité ou calme, simple, rapide ou lent, à l'aise ou mal à l'aise. Brillant ou éteint. Et ainsi, nous pouvons voir que ce qui émerge à un temps de vie est passe. Ce qui est bénéfique, c'est un temps de vie. Ça émerge, c'est un temps de vie et ça passe. Et si nous avons une emprise conceptuelle, pareil, attention pure. Quelle est l'expérience mentale maintenant? Ok, ça a émergé. Juste maintenant, ça trotte. Hein? Fouf. Et à un moment donné, ah, c'est la fin. Donc, ce qui est important, c'est la réponse que nous donnons à tout ce qui émerge et passe. Quelle réponse est-ce que nous donnons? Ou quelle attitude est-ce que nous avons? Parce que vouloir controuler, c'est voué à l'échec. Alors, vous pouvez vérifier ce qu'on peut contrôler, contrôlons-le, si possible consciemment. Mais ça a ses limites. Tout d'un coup, je ne peux plus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et la réponse, elle est toujours liée à quelque chose qui nous plonge encore plus dans l'aveuglement. Parce que je cherche autre chose, je cherche à réagir, je cherche à fuir ou à prétendre. Ou quelque chose qui va vers la libération, parce que je sais que ce n'est pas le moment, et je vais tout à fait ailleurs avec des pratiques de bienveillance et de refuge. Ou alors qu'il y a cette qualité de reconnaissance, d'acceptation de dukkha. Je suis libre. De la réponse du berger à la bergère. Nous ne voyons pas combien nous sommes les seuls à créer notre souffrance. Personne, ni la situation, ni l'autre. Il n'y a que moi qui ai encore à approfondir ma compréhension. Ah, j'ai pas pris, j'avais une jolie petite parole qui disait que Dieu n'est pas le réparateur dans la machine, il est le problème lui-même. Dieu n'est pas là pour réparer tout ce qui nous ennuie, il est ce qui nous ennuie, que nous avons à reconnaître comme l'aiguillon qui nous mène à une compréhension plus profonde. C'est pour ça qu'avec le Covid, on peut continuer à se vacciner, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est bien qu'on le fasse, peut-être. Peut-être. La liberté est dans la compréhension de l'impermanence et dans la réponse que nous donnons. Et ça n'est pas que nous devions donner la bonne réponse. Vous avez bien compris, c'est pas comme ça que ça marche. La méditation est un art. Et je donne une réponse et je regarde. Ah, oh, mais ça, c'est peut-être pas la bonne réponse. Mais c'est OK. Nous prenons refuge dans autre chose que les lois du monde. Nous suivons les lois du monde, nous allons agir, nous allons être dans la compassion le plus possible, dans l'altruisme, l'éthique. Mais notre vrai refuge, il est dans la source même de l'être. Il est dans le maintenant. Dans l'interrelationnel, l'impact de l'impermanence est particulièrement massif. C'est pour ça que, personnellement, je trouve bien qu'il y ait le dialogue conscient dans une retraite, même si pour certains c'est délicat. Pour moi, c'était très délicat au départ. J'avais une parano sociale majeure. Mauvais karma. Mais qu'est-ce que c'était riche? Parce que l'autre est tellement important. Nous sommes des êtres relationnels qui avons besoin de fraternité et d'amour. Et s'il y a quelque chose qui fait que nous nous sentons perdus, c'est la non-reconnaissance, le sentiment de ne pas être compétent, de ne pas être valable. Et ça peut être l'autre qui nous donne cette image, mais souvent c'est une image que je suis assez douée pour me offrir moi-même. Nous ne sentons pas aimés. Et lorsque nous prenons refuge, ça ouvre l'énergie au cosmos. Ça ouvre l'énergie à ce qui est le contenant de ce corps et de cet esprit. Nous croyons que tout est là-dedans, mais tout est là-dehors. Si nous nous laissons nourrir par l'énergie extérieure qui nous a construit, le sentiment d'appartenance ne peut pas nous être enlevé. Il est là. C'est pour ça que cette espèce de dialogue que certains ont entre une sorte de grand moi et une sorte de petit moi, où je me dis à moi-même, mais que tu sois heureuse, que tu sois en paix, que tu sois libérée, que tu te sens aimée, que tu puisses trouver, que tu sois dans la sagesse, que tu sois présente, que tu sois... En fait, nous sommes immenses. Nous sommes immenses. C'est nous qui créons le monde. Et en même temps, nous sommes poussière. C'est aussi ça l'impermanence. C'est ça la dualité. Nous naissons, nous construisons toute une vie. Et puis à la fin, le moi, c'est fini. Et c'est ça qui lui donne sa grandeur à ce moi. Je vais finir avec une petite parole très concrète, poétique, qui dit bien ce paradoxe de la nature humaine. Ça s'appelle le pinson. Lors de ma marche matinale, j'ai apprivoisé un pinson. D'abord, une ou deux fois, j'ai réussi à faire venir le pinson tout près. Il a pris une graine dans ma main et il s'est enfui comme un voleur. Et puis il s'est enhardi. Il en a pris deux ou trois et il a rejoint sa branche. Un jour, il est resté tranquillement sur ma main en picorant et en observant tout autour. Un matin, surprise, mon pinson picorait dans la main de quelqu'un d'autre. J'avais envie de dire « Monsieur, ce pinson et moi, nous avons une relation. J'ai passé des heures à apprivoiser l'oiseau, debout dans la neige, avant qu'il ne descende de l'arbre et fasse confiance à ma main. » Mais je n'ai rien dit. Personne n'est propriétaire du ciel, des arbres. Personne ne peut s'approprier le cœur des oiseaux. Pourtant, étant humain et partial à mes propres succès, sans avoir aucune jalousie ou ressentiment pour les façons des autres, je crois que demain, je vais venir plus tôt. Nous pouvons prendre un moment en silence.